Dans quelques heures, le MacBook Air M2 arrivera dans les Apple Store et chez les Apple Premium Resellers. En cette veille au soir du 15 juillet 2022, premier coup d'œil en avant-première sur le nouvel ultra-portable d'Apple. Johnny Ive et Apple, c'est fini selon le New York Times. Le designer en chef de l'iMac, de l'iPod, de l'iPhone et de l'Apple Watch et Cupertino se seraient mis d'accord pour écourter le contrat entre Apple et Love From. Alors quel avenir pour le design chez Apple sans Johnny Ive? C'est l'info de la semaine. La tour Eiffel, encore plus belle dans la nouvelle version de plan dont la France bénéficie depuis vendredi dernier. Visite guidée de cette nouvelle appli de cartographie prête pour le futur casque de réalité augmentée. Ce sera dans Pommes. Apple Watch Pro et iPhone 14 Plus, ce sont les deux noms qui ont désormais la cote pour les modèles attendus en septembre. Le point dans les rumeurs de la semaine pour l'avant-dernière de la saison. Garde à vous! Bonjour à toutes et à tous. Si vous avez l'image, vous avez vu que nous nous sommes levés pour la Marseillaise. Bon 14 juillet, où que vous soyez à travers le monde, en Chine comme Gérald ou à Los Angeles comme Mika. Ici Benjamin Vincent, depuis Paris, mais plus pour très longtemps. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous dans iWeek, la semaine Apple, le podcast hebdo de référence sur l'actu Apple et de l'écosystème. 99e épisode. Ça sent la centième. C'est aussi le 46e numéro de la saison 2. Je salue tout de suite les valeureux, les courageux qui bravent la canicule eux aussi pour m'accompagner en ce jeudi soir. Bonjour Élie et bonjour Fabrice.
Bonjour mon capitaine.
Bonjour tout le monde.
Bon, je commence par toi Élie Abitbol.
Yes.
Président des APR en France et cofondateur des magasins MCS à Nice, Cannes et Aix-en-Provence. Si l'Apple Watch donnait ta température, tu serais à combien, Élie?
Là, il fait vraiment chaud. Il fait entre 37 et 38, donc c'est un peu de fièvre quand même. Hein.
Bon, mais d'accord.
Il faut dire qu'à l'heure qu'il est, on vous promet un beau feu d'artifice dans l'émission, puisque c'est bientôt l'heure des feux d'artifice. Hein.
Eh oui, alors ce feu d'artifice, ce sera avec toi dans quelques instants, puisque cette semaine est marquée par la sortie dans quelques heures du MacBook Air M2, et grâce à toi, on va le découvrir en avant-première.
Mais oui, absolument, et vous allez voir que c'est une bien belle machine.
Bon, super, dans quelques instants, donc premier coup d'œil sur ce MacBook Air M2. Fabrice Neumann également avec nous, le mentor en technologie qu'on préfère. Salut Fabrice.
Bonjour Benjamin, salut Élie. Bonjour à toutes et à tous.
Bon, @FabriceNeumann sur Twitter et ton site pro-fusion-conseil au pluriel
.fr.
Fr, c'est ça.
Bon, absolument.
Je vois que tu as la chemise col ouvert, col au vent. Tu as aussi le brumisateur, le ventilateur, les glaçons.
J'ai tout ça, il fait un petit peu moins chaud dans mon sud-ouest que dans le sud-est d'Elie, il fait que 35, donc ça va.
Bon, ça va.
C'est bien.
Si Elie fait une syncope, tu seras encore avec moi, j'espère, pour finir l'émission.
Exactement.
Bon, c'est aussi une semaine marquée par la déclaration de Steve Jobs à titre posthume par Joe Biden, avec la plus haute distinction pour un civil aux États-Unis, la médaille présidentielle de la liberté. Semaine importante donc à plusieurs titres. On va dédier cette émission, cet épisode 99 à Steve. avant de faire la fête pour la dernière dans quelques jours. Dans quelques instants, donc, le MacBook Air M2 entre les mains d'Eli pour un premier aperçu quelques heures avant son arrivée officielle. Et dans quelques minutes, la fin de la belle histoire entre Johnny Ive et Apple. A tout de suite. C'est l'événement de la semaine, le MacBook Air M2 arrive demain vendredi 15 juillet 2022 et en ce jeudi soir, Eli, tu as officiellement le droit de nous montrer ce MacBook Air M2 puisqu'il est plus de 18h et que les magasins ont fermé.
Exactement, les magasins sont fermés et donc de toute façon, au moment où paraîtra cet épisode, nous respectons, on va dire, les consignes. Et ce MacBook Air est là. Est-ce que vous voulez le voir ?
Mais oui !
Alors. Oui.
Alors, je vous ai choisi un petit modèle Midnight.
Yo.
Voilà, on va le mettre à l'envers.
Voilà, on a beaucoup ri la semaine dernière pour qualifier cette couleur. Est-ce que tu peux nous dire de quelle couleur est ce MacBook Air M2 Midnight, minuit en français ?
Alors, c'est une couleur caméléon. Je m'explique.
Super.
Mais oui, je m'explique parce que figurez-vous que ce matin, quand j'ai préparé donc les machines, j'ai préparé celle pour le magasin de Nice, celle pour le magasin de Cannes. Donc j'avais deux exemplaires de Midnight et deux exemplaires de Lumière Stellaire. Et alors, c'est assez rigolo parce que moi j'étais devant un Midnight et je voyais un bleu métallisé magnifique, mais vraiment magnifique. Et je regardais celui qui était sur ma gauche, donc juste séparé par un Starlight, qui était gris anthracite foncé. Et je me suis dit, attends, ils se sont trompés de référence, ils m'ont envoyé le mauvais truc. Qu'est-ce qui se passe ? Donc j'ai appelé un de mes techniciens, j'ai dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe pour... J'en ai un bleu et un gris. Et lui, il était devant l'autre, il fait, non, tu te trompes. Moi, j'ai un bleu, toi, t'as un gris. Je vais, attends, donc on a permuté. Et effectivement, j'étais devant l'autre, il était bleu. Celui d'à côté que je voyais bleu était gris anthracite. C'est incroyable. Suivant comment vous le regardez, de face, il est bleu. Légèrement de côté, il est gris. C'est dingue. Hein.
D'accord.
Bon, sort de ce corps, Gérard Majax.
C'est ça. Bon, c'est une question d'éclairage, de lumière, j'imagine.
Absolument. Mais je me suis dit ça. Je me suis dit ça. Mais comme ils n'étaient pas au même endroit, ça ne pouvait pas être ça quand même. Mais oui. En partie.
Alors, bon, tu as donc le modèle Midnight ou minuit entre les mains.
Oui.
Est-ce que tu peux nous le montrer et puis
nous
donner ton premier sentiment sur, sur son volume, son épaisseur, son poids, etc.
Mais écoute, le poids, il est génial. Vraiment, il est ultra léger. L'épaisseur, vous voyez que c'est quand même plus épais que le précédent, puisqu'il n'y a pas la partie en pointe, hein, on
en
va
biseau,
dire.
En biseau, ouais.
Voilà. Pourquoi ça s'explique ? Bah, tout simplement parce qu'il y a 4 haut-parleurs, et rappelez-vous que on connaissait déjà ça dans le 14 et 16 pouces. Il y a 4 haut-parleurs et on utilise les patins qui sont là, un peu comme caisse de résonance. Donc, c'est pas la peine de faire très gros en carrosserie, mais on sait utiliser le moindre millimètre. Donc, à part ça, il y a le connecteur MagSafe, donc nouvelle génération.
Ouais.
Je précise que le câble, évidemment, correspond dans la boîte à la couleur du produit. Donc là, le doute est levé.
Donc si vous avez commandé un MacBook Air M2 minuit et midnight, vous avez un câble MagSafe de la même couleur. D'accord.
Que voilà.
Sauf le connecteur USB-C qui lui reste blanc sur tous les câbles, hein, je crois.
Oui, ouais, absolument. Et l'autre est de la bonne couleur.
Oui, absolument.
Alors, donc, comme on a le 256 Go. Donc, je n'ai pas fait encore des tests de vitesse de disque, hein, je sais, parce qu'il y a plusieurs auditeurs qui vont me poser la question. Donc, ça, je n'ai pas encore testé. Mais, en tout cas, on a le petit adaptateur, hein, comme on a dit la dernière fois, et ça se confirme. Ce n'est pas le double chargeur USB-C que vous auriez voulu. Non, c'est le petit adaptateur USB-C.
Donc, c'est le 30 watts.
Le chargeur USB-C.
C'est le 30 watts.
Absolument.
Donc c'est le chargeur de base, c'est le moins puissant de ceux qui existent.
Exactement. Alors après, dès qu'on ouvre la machine, bah, moi je la trouve vraiment, vraiment très belle. Clavier rétroéclairé, l'écran, c'est une folie. La qualité de la caméra, je vais lancer FaceTime pour que vous la voyez, c'est une folie, mais vous avez l'habitude. Benjamin, toi tu as un 14 pouces, donc tu sais de quoi je parle. Et François qui a un iMac M1 le sait aussi, mais... C'est juste dingue, la qualité de l'image. Voilà, je vous le montre là, vous allez voir peu... Bon, là, c'est... Ce que vous voyez, c'est mon Mac, mais quand je me regarde, la qualité de l'image est juste dingue.
Par rapport au MacBook Air M1, est-ce que tu vois des différences
Oui, et on en a parlé. Les touches de fonction sont plus grandes, sont plus larges. L'arrondi est un peu différent. Le clavier ressemble, c'est un clavier papillon. La touche pour le... Non, papillon, que je raconte, moi, ciseaux.
Ah non,
ne
ciseaux, parle ciseaux. Pas de
merci.
Malheur.
Merci Fabrice. C'est la chaleur. Mais en tout cas...
C'est le successeur clavier... du clavier papillon, c'est ça que tu dis.
Exactement. Mais l'écran est vraiment très beau. Au niveau, côté droit, vous avez juste le jack qui tient à peine. Hein. Je pense que s'ils font plus fin, ça passe plus. Hein.
Fais voir, on n'a pas bien vu le côté droit.
Pardon, oui, bien sûr.
Voilà. Ah oui, d'accord, il n'y a que le jack côté droit.
Que le jack. Et vraiment juste. Hein. De l'autre côté, vous avez le MagSafe nouvelle génération qu'on connaît déjà et les deux ports USB-C.
Ouais.
Voilà. Il est vraiment très fin quand on regarde.
Il y avait déjà deux ports USB-C sur le MacBook Air M1.
Oui. Ouais. Il me semble. Oui. Sinon, pour le reste, on fera des tests plus approfondis pour la vitesse du disque et pour le processeur. Moi, je trouve la machine vraiment somptueuse. Alors, le notch est assez, en fait, l'encoche est assez présente. Il faudra utiliser un des logiciels.
Fais voir, remonte-nous. Ouais.
Hop, alors je le mets en bas pour que vous puissiez le voir.
Ah oui, effectivement.
Hop, ça se voit quand même pas mal.
Ouais, mais finalement, alors tu sais, je regarde ton image sur mon écran de MacBook Pro 14 pouces et le notch est exactement de la même taille. Hein.
Oui.
Ni plus gros, ni plus petit.
Oui, je pense qu'on s'y fait très très rapidement. Mais et sinon, quoi dire d'autre? Il y a un truc dont on peut parler, mais on ne va pas être négatif parce que pour tout le reste, les premiers bench qui ont été faits disent qu'il est vraiment rapide. Alors bon, pas forcément plus rapide que le MacBook Pro M2, hein, puisque c'est le même pros. Mais très rapide pour un MacBook Air, évidemment, donc non pro, on va dire. Très très rapide, les Geekbench, évidemment, en monocœur, sont équivalents. En multicœur, ça donne du 9800, quelque chose. Donc,
il y a quelques pourcents d'écart, mais à peine...
À peine. Et évidemment, j'ai pas encore pu tester le disque parce que vraiment, j'ai eu le temps. Là, les démos sont même pas encore entièrement chargées. Il faut qu'elles le soient pour demain matin. Mais je suis parti avec pour pouvoir vous le montrer. Donc, je pense qu'il y a toute une équipe chez moi qui le cherche. Mais c'est pas grave parce qu'en même temps, ils ont qu'à faire la fête. Hein.
Essaye de pas te faire arrêter avant la fin de l'enregistrement.
Non. Et par contre, il y a le seul point négatif peut-être, mais je l'avais déjà lu et je ne voulais pas le croire. On pourrait parler d'un smudge gate. La machine est neuve. Hein. Si vous la regardez, je ne sais pas si vous voyez les détails, mais le problème, c'est qu'il y a des traces de doigts absolument partout. Mais partout. Et pourtant, je viens de la sortir de la boîte. Hein.
On les voit, oui.
Alors, ça s'enlève très facilement. Mais si vous ne pensez pas à le faire
avec
tout le temps...
Avec une petite fenêtre.
Ou qui n'est pas livrée, hein, je précise.
À 25 euros.
Oui. Ah, c'est pas livré. Ouais.
C'est pas livré. Et donc, à force de lever, baisser l'écran, y a tout autour, il y a des traces de doigts. Alors, peut-être que j'ai les mains grasses, j'en sais rien, j'espère pas. Je me suis lavé les mains pourtant.
Oui, on voulait te le dire, t'as les mains un peu grasses, oui.
Mais pourtant, avec le Covid, je me les lave souvent, mais bon. Donc, ça sera à tester. Alors, ça ne gêne en rien le fonctionnement ou la beauté de l'appareil, qui est un des plus beaux portables que j'ai vu, parce que... Rappelez-vous, quand on a parlé des 14 et 16 pouces, qu'on adore au niveau de la puissance, on a trouvé qu'au niveau design, c'était un peu épais, un peu lourd, qu'Apple s'approchait un peu du design est-germanique par rapport à ce qu'il savait faire avant avec Johnny Ive, mais on va en parler tout à l'heure de Johnny Ive. Celui-ci est un produit digne d'Apple. Vraiment, il est mince, il est équilibré, je le trouve même plus beau que les précédents, parce que ce système en pointe, ça permettait de battre des records à l'époque, hein, donc c'était bien. Mais là, ça a l'air d'un portable ultra léger, vraiment, vraiment beau. Après, ces petites traces de doigts, il faudra tester avec les autres couleurs.
Il fait 37 degrés aussi, hein, donc forcément, on a les doigts qui transpirent un peu. Hein.
Bah, un peu. Voilà, donc bon, je peux vous mettre un peu de musique si vous voulez, ou des choses comme ça. Les haut-parleurs, j'ai pas écouté les quatre haut-parleurs parce que le contenu de démo, je vous le rappelle, c'est pas moi qui décide ce que je mets dedans, c'est Cupertino qui me l'envoie quand ils veulent. Et comme nous sommes en avance par rapport à l'heure américaine, ils n'ont pas encore commencé à nous envoyer le contenu. Donc là, pour l'instant, il a démarré en mode démo, c'est-à-dire que je n'ai pas le contrôle de l'appareil. Je ne peux même pas installer un fichier de 2K pour vous montrer. Je ne peux pas.
D'accord.
Parce que je n'ai pas les mots de passe qui me permettent d'accéder à l'appareil.
C'est déjà très, très bien d'avoir ce premier coup d'œil.
Voilà, mais c'est en tout cas, moi, première impression quand je l'ai déballé, j'ai trouvé magnifique. Et lumière stellaire à côté, surprenant, de très 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 jolies couleurs. C'est pas argenté vraiment, c'est pas rose gold, c'est une couleur Apple. C'est ouais. Avec des petits reflets hein, dans la carrosserie, un peu comme s'ils avaient incrusté ça de petits reflets. J'ai trouvé très très beau. Alors évidemment, le Midnight, ça va être la couleur préférée de tout le monde, mais ne négligez pas l'effet Starlight. Petit conseil. Peut-être d'ailleurs pour les femmes.
T'as pas un lumière stellaire à côté de toi, là ?
Hélas, non, si j'étais parti avec les deux exemplaires du magasin, là...
Ça aurait fait louche, là, quand même.
Bon, écoute, c'est déjà génial. Ton
je vous enverrai une photo, si vous voulez.
Ton sentiment, Fabrice, sur ce qu'on vient de voir avec Ellie ?
Mon sentiment... plusieurs choses qui me viennent un peu dans le désordre. D'abord, ça me rappelle le MacBook noir. Donc à l'époque, quand il y avait un MacBook blanc et puis il fallait payer 200€ supplémentaires pour avoir le droit d'être en noir, hein, pour avoir un petit coup de peinture supplémentaire, qui était vraiment très beau déjà aussi à l'époque, qui était, me semble-t-il, lui aussi un aimant à empreinte, parce que en fait, ça vient de la couleur. Hein, tout bêtement, ça se voit plus à cause des reflets, etc. C'est pour ça, par exemple, moi j'ai tendance à préférer les claviers à touche blanche plutôt qu'à touche noire, parce qu'on voit aussi justement ces traces-là. Hein. Ça a l'air d'être une machine vraie qui fait vraiment envie. Le côté, tu disais, le biseau, moi j'aimais bien le biseau. Bon, y a un côté iconique dans le design, oui. Effectivement, on en reparlera. Mais à l'époque, ça permettait d'éviter les portables à bord un peu coupant, pour dire un peu vite. C'était un peu épais, puis la tranche, là où on pose les poignets ou la paume des mains pour taper sur le clavier, c'était il y avait une arête très très aiguë. Donc sur le MacBook Air, il n'y avait pas ça, c'était plus confortable. Comme celui-là est vraiment très fin partout, je pense que c'est probablement pas ou moins un problème. Non, c'est, je pense que c'est une super machine. Ce qui fait mal, c'est le prix, quoi.
Oui.
On en a déjà parlé c'est vraiment Apple a l'habitude de nous faire entre guillemets des misères, quoi, de nous faire des efforts pour avoir un peu ce que nous on trouve mieux, et donc on est capable de on veut bien payer un peu plus, mais là c'est payer beaucoup plus, et donc c'est difficile, hein. Aujourd'hui, quand si des gens qui me demandent qu'est-ce qu'il faut que je choisisse, je pense que je vais quand même plutôt les aiguiller vers le MacBook Air M1 que celui-là, quoi, parce que c'est vraiment beaucoup plus cher.
Mais le M1, il n'y a pas d'ailleurs toutes les références, puisqu'Apple a profité pour un tout petit peu écumer, donc on n'a plus accès qu'aux 7 cœurs.
Voilà, effectivement. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. La caméra est pareil, moins bonne. L'écran est un peu moins bon, un peu moins lumineux, etc. Mais c'est 300€ minimum, quoi, de plus, quoi.
Bien sûr.
Ça fait mal, hein.
Surtout si on conseille un modèle 512Go. Là, c'est.
Exactement. Voilà, comme on disait la semaine dernière, c'est vraiment ça, parce que le vrai. Je pense que je sais pas si les tests l'ont déjà confirmé, que tu nous le confirmeras, Ellie, quand tu auras le temps de faire quelques tests, mais que le 200, il va y avoir une différence probablement, comme sur le MacBook Pro 13 pouces dont on a déjà parlé, entre le 256 et 512 à cause de la présence d'une simple puce au lieu de deux pour le stockage. Donc voilà, donc ça met, comme on disait, le prix de base d'un MacBook Air M2, c'est plutôt 512Go, donc c'est 230€ de plus, ça fait 1750€. Là. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. C'est la partie là, vraiment décevante, quoi. Voilà, il n'y a rien à faire.
Ben, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, quand on leur explique ça, ils disent, mais ben, dans les 1800€, si, bon, et du coup, ils disent... Oui, mais je suis pas très loin quand même si de MacBook Pro du coup. Donc.
Oui, absolument. Et alors, à contrario de ça, quand même, n'oublions pas de rappeler quelque chose, c'est que autant il y a 2 ans, par exemple, acheter un MacBook Intel, on n'était pas sûr de la longévité de la machine parce que justement, on savait que ça allait venir ou la transition avait commencé, etc. Donc, c'était pas du tout conseillé d'acheter un Mac à processeur Intel. Aujourd'hui, acheter un Mac à processeur M, 1 ou 2, on sait que on va pouvoir le garder longtemps, sauf si on le laisse tomber et qu'on le casse, naturellement. Mais en termes de mise à jour, de disponibilité, tout ça, ce sont des machines qui vont durer. Et là, en revanche, c'est la justification sans problème de d'abord de gonfler la mémoire vive et aussi la mémoire de stockage pour améliorer la durabilité de la machine. Et on sait qu'on va pouvoir le garder longtemps et avec des très bonnes performances. Ça me paraît assez évident. Donc là, pour la longévité des machines, le Mac reprend un avantage certain quand même.
En tout cas, moi, pour résumer l'impression, c'est un des premiers portables que j'ai vraiment envie d'acheter. J'étais très tenté en le voyant ce matin, je me suis dit, mais je pourrais travailler avec ça, à cause de sa légèreté et tout. Alors que, vous le savez, j'hésite entre le 14 et le 16 pouces depuis leur sortie,
depuis
donc ça commence à faire long. Mais je ne pense pas que les prochains 14 et 16 M2 Pro seront plus légers, hein, malgré les critiques, etc. Donc je me dis. Puissance par rapport à poids, par rapport à même forme de la machine. Et celle-là, elle fait fine, élancée, très élégante. Justement, ça fait pas Lada est-allemande. Mais... mais donc, honnêtement, première impression très agréable au point d'être tenté de l'acheter. Maintenant, si je me raisonne, je me dis, mais ma prise HDMI, je l'ai pas, mais mon connecteur, bon, bref. Donc, après, la raison va me faire traîner encore quelques mois, mais...
Bon, est-ce que je peux te poser la question qui fâche ?
Vas-y.
Est-ce que tu as beaucoup de quantité à vendre ce vendredi 15 juillet ?
Alors, moins que ce qu'on voudrait, mais plus que ce qu'on pensait.
Ah !
Alors, je pense que... Nous avons chez nous quelqu'un que je salue au passage, hein, si jamais elle écoute l'émission, Daniel, qui, elle, passe sa vie à essayer de nous trouver des produits. Et donc, je ne sais pas par quel moyen de chantage, de pression diverse, de pot de vin ou autre méthode légale, hein, dans notre métier.
Bien sûr.
parce que... on a eu, en fait, une information des grossistes sur les quantités qui arrivaient en France. Et en fait, on en était à moins de 5 machines, entre 1 et 5 machines par point de vente. Donc, wow. Ce qui est tout modèle confondu, hein, donc ce qui devait pas être quand même la fête. Hein. Ça, c'était la première info. Et résultat, c'est qu'on a eu une première livraison où effectivement, il y avait quelques machines, vraiment pas beaucoup, dont les machines de démo. Et puis après, on a vu une deuxième et une troisième et une quatrième livraison arriver le long de la journée, de provenances différentes. Et donc là, bon, on va pouvoir ouvrir vendredi, hein, parce que franchement, dans ma tête, je me disais, non, mais si on a 2 machines à vendre dans la journée, je donne congé à tout le monde, on fait un pont et on va se saouler dans un coin, parce que rater un lancement de produit Apple, moi, ça me rend malade.
Ah,
donc il y avait quand même un mouvement chez moi en disant, non, mais attends, il n'y a pas de produit à vendre, c'est le 15 juillet, de toute façon, les gens ne viendront pas, et si on profitait pour se reposer et tout. Et moi, j'ai dit, non, mais c'est un lancement de produit Apple, les mecs, hein, je ne peux pas faire ça, moi, je ne peux pas. Mon ADN est codé déjà, j'y arrive pas. Et donc, du coup, la bonne nouvelle, c'est que, bon, en tout cas, nous, on va pouvoir faire un lancement honnête. Et j'espère que les clients viendront au moins le découvrir, hein, profitant de leurs vacances et de leurs ponts. Car vous savez, souvent, l'essayer, c'est l'adopter. Hein, donc, voilà.
Et comment tu sens le public, les clients, par rapport à ce MacBook Air ?
Écoute, on a déjà des réservations, ce qui n'avait pas du tout été le cas lors du MacBook Pro. Donc, ouais. Des gens qui l'ont réservé très très tôt. On a des gens qui l'ont réservé très tôt, mais qui doutent encore savoir quel modèle prendre. Donc, peut-être qu'en venant les voir, peut-être qu'en regardant la performance, il y a des gens qui retardent leur décision parce qu'ils nous ont écoutés et qui disent « Oui, mais est-ce que je vais prendre un 256 si le disque est long ou est-ce que j'essaye d'acheter un 512, mais c'est cher ?» Alors, bon, j'essaie d'expliquer qu'il n'y a pas vraiment de disque lent hein, sur un SSD, mais oui. qu'il est vrai que par rapport à un 512, des tests ont montré que c'était plus lent. Bon, dans certains cas, alors la performance sera quand même, sinon on le saurait, hein, la performance sera quand même honnête. Mais bon, si quelqu'un veut le top du top du top du top de la vitesse, ça coûte de l'argent, c'est comme ça. Hein, c'est... Mmh.
Et question subsidiaire sur les dispos, est-ce que tu as reçu uniquement les modèles de base, c'est-à-dire 8 Go 256, ou est-ce que tu as autre chose?
Alors, on a les modèles, on a reçu du 256 et du 512, mais en 8 Go, parce que je rappelle que les 16 Go, c'est du CTO. CTO, ça veut dire commande à passer en Chine, et c'est... Jusqu'à présent, c'était... Bon, c'est vrai qu'avec la rupture de composants, des fois, on a eu des délais qui étaient fantasques, mais typiquement, c'est 3-4 semaines quand tout va bien pour un CTO. 3-4 semaines parce que maintenant, la distribution en France a changé par rapport à il y a quelques mois. En fait, depuis fin mai, la distribution a changé. Vous savez que, je l'ai répété souvent ici, il y avait 3 APR qui étaient direct Apple, c'est-à-dire qui commandaient directement dans les usines avec une interface. Maintenant, il n'y a plus de distribution directe chez Apple, en tout cas chez les APR. Donc, ça veut dire qu'on fait comme nos petits camarades, on a été ramenés dans le rang. Et donc, du coup, quand on passe une commande de CTO, bah, on passe la commande chez un grossiste, mais il n'y a plus de portail automatique. Donc, le grossiste reçoit la commande, ils la saisissent, eux, dans un système, et ça part. Mais comme ils sont débordés, et qu'il y a peu de personnel, et que c'est l'été, et que, enfin, etc., etc., des fois, il peut se passer qu'il y ait 24-48 heures pendant laquelle la commande reste dans un petit coin avant d'être traitée. Et donc, ça rallonge un tout petit peu les délais parce que chez Apple, il faut que les commandes soient passées avant le mardi. Donc, quand ça passe après, c'est décalé à la semaine suivante. Donc, il vaut mieux les passer tôt dans la semaine. Si on passe une commande le jeudi ou le vendredi, bah, elle est traitée avec du décalage. Bref, toujours ça pour dire que, comme en plus le M2 est une nouvelle machine, on ne sait pas quels vont être les délais de production des CTO. On a déjà eu des surprises sur les autres. Donc, il se pourrait que 3-4 semaines, ça puisse être 6-7 au début et après, ça va se normaliser. Donc, ceux qui veulent du 16 Go, je l'ai déjà dit à des clients, il faut qu'ils soient un peu patients. On peut avoir une bonne surprise et l'avoir en 3 semaines, hein, ça peut arriver. On a même eu du 15 jours et même moins, mais ça, c'est quand Apple veut. Hein. Et sinon, bah, il faut juste être patient.
Ça veut dire que tu n'as reçu aucune machine en 16 Go?
Ben non, parce que je ne peux pas commander ces références-là.
D'accord.
Ils ne sont pas au tarif, donc hélas, ceux qui veulent du 16 Go savent qu'on peut les commander. On a maintenant les mêmes délais que tous nos confrères, donc on n'est plus privilégié comme avant, mais ça se joue à 48 heures. Hein. Ouais. Mais que c'est en tous les cas une commande à passer en usine.
Ok Ellie, bon, bah, écoute, merci infiniment pour ce premier coup d'œil en avant-première sur le tout nouveau MacBook Air M2. Je pense aussi que c'est une super machine. Après, j'ai une réserve sur l'augmentation du prix. On est impatient de voir quel effet ça aura sur la demande.
Je vous dirai dans les premiers jours. Vendredi, on sera là, on sera ouvert. Maintenant, est-ce que les gens vont venir un 15 juillet avec le pont s'ils ne sont pas partis en famille ou à la plage ou ailleurs parce qu'ils ont envie de la machine? Ça va être un bon test pour voir si on a des clients fidèles et impatients. mais sinon, il faut se donner quand même une petite semaine ou deux. Apple est super attentif au week-end de lancement de la machine. Ouais. Mais bon, il faut qu'ils sachent, parce que pour l'instant, ils ont oublié qu'en France, il y a le 14 juillet. Parce que comme ils continuent à nous demander de préparer nos magasins pour le 14 à 18h, je continue à leur dire
toujours pas.
Bah oui. Merci Ellie. On marque une courte pause et on se retrouve pour revenir sur l'info de la semaine, la fin du contrat entre Johnny Ive et Apple. À tout de suite.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui.
Tu pourrais mettre aussi les Rita Mitsuko, les histoires d'amour finissent mal.
Oui, c'est vrai, on aurait pu mettre ça, c'est vrai. Bon, j'ai essayé de mettre une musique de circonstance pour introduire ce sujet, cette séparation Alors, à l'amiable ou pas, pour l'instant, on a l'impression que ça s'est pas trop mal passé, mais peut-être que d'ici quelques jours ou quelques semaines, on apprendra que rien ne va plus entre, d'un côté, Johnny Ive et de l'autre, Tim Cook et Apple. C'est quand même là vraiment la fin d'une histoire qui avait commencé à s'arrêter il y a 3 ans, quand Johnny Ive était parti de chez Apple pour fonder son studio de design Love From. Un contrat avait été signé dans la foulée avec Apple, hein, 100 millions de dollars, je crois, pour ce contrat. C'est quand même pas mal pour lancer sa boîte. Ça aide. mais voilà, ça n'a duré que 3 ans. Et finalement, c'est la conclusion de ce qui a démarré le jour de la mort de Steve Jobs. On peut le dire comme ça ?
Oui.
Ellie ?
Oui, c'est absolument ça. Je pense que au fur et à mesure que Tim Cook a pris les commandes et qu'il a imposé sa marque dans Apple, bah c'est lui le chef, c'est lui qui décide ce qu'il fait de sa journée et il fait selon son bon plaisir. Donc, autant Steve était capable de passer une bonne partie de son temps, voire une énorme partie de son temps, ouais, dans le studio de design et passer des heures à regarder la taille d'un packaging, la couleur d'un manuel et qui faisait des dizaines de prototypes grâce à leur imprimante 3D qui variait d'un millimètre, de 0,5 millimètre pour se rendre compte de l'épaisseur, est-ce que c'est important, etc. Autant Tim Cook, il ne va pas au studio de design. Il a des ingénieurs qui sont là, il voit bien sûr les résultats, mais on va en parler tout à l'heure. C'est exactement ce qui se passe avec l'Apple Car et probablement c'est une des conséquences de ces retards, c'est-à-dire que Apple travaille sur une voiture comme sur d'autres choses, mais Tim Cook suit ça de très loin, d'après ce qu'on a lu récemment. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y va pas très souvent, parce que c'est en dehors de Cupertino, hein, c'est à Santa Clara. Et on voit que, bon, il sera content quand ça sortira, mais ça ne le passionne pas. Et je pense que les équipes d'Apple, ceux qui survivent depuis l'époque Jobs, bah, s'il n'y a pas le patron qui est là, qui leur dit « vous êtes géniaux, j'adore ce que vous faites, je reste avec vous, je vous donne mon avis tout le temps », etc. Ça peut être gênant de donner l'avis tout le temps d'ailleurs, mais en tout cas, il n'y a pas cette pression du détail, ce goût. Et donc, si tu ne t'intéresses pas à un projet, il peut y avoir des fois des démotivations. Et je pense que au niveau de Johnny Ive, avec son ego quand même, parce que ça a été, on peut dire que le renouveau d'Apple, ça a été Steve et Johnny Ive. Ouais. Steve avait des idées magiques en marketing. Johnny Ive a fait des produits étonnants. Étonnants, ouais, à un moment donné. Le premier Mac, Bondi Blue, c'est lui. Hein,
L'iMac, ouais. Ouais. Donc il y avait du ressentiment, hein, entre les deux hommes, visiblement, depuis plusieurs années. Fabrice, tu n'es pas surpris par ce divorce quasi officiel maintenant?
Non, alors j'ai envie de dire encore moins après la sortie du livre After Steve de Trip Mikkel, dont on a déjà parlé ici, qu'on a été un certain nombre à lire, il me semble, qui décrit bien ça. Hein. C'est un bouquin qui est présenté un peu comme ça, une sorte de portrait parallèle d'un côté de Johnny Ive et de l'autre de Tim Cook, comment ils ont vécu la disparition de Steve Jobs et comment ils ont se sont adaptés au sein d'Apple en prenant chacun leur place, et donc effectivement la place de Johnny Ive qui s'est réduite petit à petit parce qu'il n'avait plus son mentor, son partenaire très très proche comme l'a rappelé Ellie. Donc c'est pas très étonnant. En fait, ce qui est assez le plus étonnant, en fait, c'est le temps que ça a pris. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le départ des senior vice presidents, etc., c'était plutôt on apprend ça du jour au lendemain, sans aller forcément jusqu'au départ en fracassant de Forstall quand il y a eu le scandale au début d'Apple Plan. Mais ils ont fini quoi, un peu comme la vice-présidente qui venait de Burberry, dont le nom m'échappe, qui est restée 5 ans, puis il y a eu un communiqué de presse pour dire, bah voilà, elle a fini, merci beaucoup, elle va reprendre ses affaires et elle s'en va. Donc là, je pense que c'était pas possible parce que l'empreinte de Johnny Ive sur Apple est tellement énorme que on pouvait pas le faire partir comme ça. Il y a eu déjà, en fait, et c'est aussi ce qui est décrit dans le livre, c'est que pendant plusieurs années, Apple et Tim Cook en particulier s'est ingénié à trouver des projets pour que Johnny Ive reste un peu plus longtemps, mais sans qu'il s'ennuie. Donc il a eu les rênes libres pour faire l'Apple Park. On lui a laissé aussi les rênes débridées pour faire la première Apple Watch en or massif, ouais, etc. Bon, il avait le choix de faire tout ce qu'il voulait.
18 000 dollars, voilà. Ça ne se refuse pas.
Non, c'est pas exactement. Donc on l'a laissé faire plein de choses qui quand même... Enfin, je pense qu'on était tous assez surpris que, lors de la présentation de la première Apple Watch, avec une Apple Watch en or, qui quand même, on est tous d'accord, peut-être a posteriori seulement, mais ça n'a aucun sens de faire un truc, on sait que c'est de la technique qui va être obsolète assez vite,
bah oui,
à 18 000 dollars, donc c'est fait pour être porté au bras de des multimilliardaires qui ont ça pendant une semaine parce que de toute façon ils y pensent pas, mais voilà, donc c'est effectivement, voilà, pas surpris, mais la comment dire, le plus surprenant c'est plutôt ça, c'est le temps que ça a pris finalement, voilà, ça a été une sorte de queue de comète pendant plusieurs années, il était temps que ça s'arrête, hein, quand même, cela dit.
Ellie, est-ce que ça se passe mal entre Johnny Ive et Apple, ou est-ce que tu crois à un divorce à l'amiable?
Non, je pense que c'est un divorce où ça va être compliqué de savoir qui va avoir la garde des enfants, c'est-à-dire,
oh, yeah.
C'est-à-dire vraiment la paternité de ces produits iconiques dans le futur, hein, je parle. Je pense que Johnny Ive vit mal ce désamour d'Apple pour le design, qui se traduit dans certains produits récents qui sont certes extrêmement performants, mais moins beaux que des produits précédents. Et peut-être que certaines de ses recommandations, que ce soit pour l'Apple Car, où il a beaucoup travaillé apparemment, ou que ce soit peut-être pour le casque, où il a aussi beaucoup travaillé, ouais, ou pour les lunettes, qui sont un peu plus à moyen terme, peut-être qu'il y a certaines recommandations qui ne sont pas suivies, et lui, un designer, c'est un absolutiste. Il a une vision d'un objet. Si on ne fait pas l'objet comme lui le voit, il n'y a pas de compromis. Il a une vision. Donc Steve faisait en sorte que sa vision soit transcrite dans les faits par les ingénieurs. À l'heure actuelle, on a pu lui dire « Non, mais ta vision des lunettes ou la vision de ta voiture, il y a des problèmes techniques, on va faire comme ça. Et ça sera moins beau, mais ça va marcher. » Et donc lui va dire non, parce que lui, il faut que ça soit beau. C'est pas de compromis, hein, pour un designer. C'est ça l'avantage et l'inconvénient d'avoir des perfectionnistes.
Ben oui, alors c'est ce qui a mené quand même à des produits problématiques, hein. Quelque part, il était temps que ça s'arrête quand même. Donc, t'évoquais tout à l'heure, Ellie, le clavier papillon.
Oui.
C'est sous la pression du ou des designers de faire quelque chose le plus fin possible, etc. Et c'était trop fin. Voilà.
Oui.
C'est aussi grâce ou à cause, je laisserai le choix à nos chers auditeurs de faire le choix, mais qu'on a une souris qui, pour la recharger, il faut la mettre à l'envers, parce qu'il faut pas voir le trou en dessous. Donc il y a de temps en temps des choix de design qui vont à l'encontre de l'usage, de la usability qu'on dit en anglais, et c'est un petit peu dommage. Donc j'ai le sentiment quand même que depuis quelques années, quand il était encore là, l'usage était un petit peu oublié, et on l'a retrouvé, cet usage. C'est un des exemples tout de suite qui me vient, enfin deux exemples, c'est les nouveaux MacBook Pro. On évoquait le retour de la prise HDMI. Ben oui, une prise HDMI c'est moche, mais qu'est-ce que c'est pratique. Sur le Mac Studio, des prises en façade, des prises USB-C, c'est pas très beau, mais qu'est-ce que c'est pratique, hein. Alors le design, le beau, c'est quelque chose, c'est du goût personnel, et c'est aussi, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est une vision d'un designer, ça n'est qu'une vision, et donc si ça commence à ne plus correspondre à la vision, en dernier lieu, des clients, c'est aussi un problème, hein. Quand on commence à se moquer de la souris, ou qu'on a des retours en atelier, beaucoup des claviers, ça va plus. Voilà. Donc je pense qu'aussi il a souffert de ça, il était peut-être aussi un peu à la fin de cette période-là. Je pense pas qu'il soit à la fin de la créativité, mais il est à la fin de la période de ce qu'il pouvait faire au sein d'Apple, probablement.
Ouais. Alors, le problème, c'est que il y a forcément une équipe qui a pris le relais en interne chez Apple, mais entre guillemets, ce sont des talents qui pour l'instant sont quasiment anonymes, c'est-à-dire que il n'a pas passé la main à un grand nom du design, Fabrice.
Alors, il y a un nom quand même qui sort un peu, et c'est aussi un peu là où je voulais en venir. C'est, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas exactement ce qu'on gagne. Et il y a un type qui s'appelle Alan Dye, qui s'occupe beaucoup d'interfaces. Et si on parle de goût et de couleur, qui c'est donc très personnel, lui aussi, il a une façon de voir les choses et une idée de design très personnelle, qui moi, par exemple, me convient moyennement. C'est-à-dire que c'est en partie, lui, le responsable, je mets beaucoup de guillemets, hein, parce que c'est... il n'y a pas de faute là-dedans, mais on avait évoqué, je crois, dans la quotidienne, parce que moi, c'est comme ça que je le vois, un peu la sécheresse du design logiciel d'Apple, et il en est un peu responsable, parce que visiblement, par exemple, je pense que Alan Dye a une meilleure vue que moi, et donc des traits très fins et des polices de caractère très fines, il aime bien ça. Ben, moi, je trouve ça moins lisible. Alors, c'est peut-être très chic, mais je force le trait, on voit rien. Ouais. Donc, et je suis pas tout seul à penser ça. Donc, c'est compliqué hein, de trouver l'équilibre. Je pense que Apple a plusieurs années devant elle avant de retrouver un équilibre aussi créatif et formidable pour les produits qu'il y a eu entre Steve Jobs et Johnny Ive, notamment au début, à partir de 1997, quand Jobs est revenu.
Ellie?
Y a aussi une énorme différence, c'est que je pense que dans la nouvelle organisation Apple, le responsable du design reporte à un product manager hardware qui doit reporter au responsable hardware global qui en parle avec Tim Cook. Johnny Ive téléphonait, voire même il était avec Steve Jobs toute la journée. Quand tu parles directement au PDG, qui en plus a tous les pouvoirs dans la boîte, c'est différent d'une relation qui est d'ailleurs beaucoup plus logique, puisque c'est comme ça que ça se passe dans les autres entreprises, en fait, hein, hors Apple, où tu reportes à ton N+1, qui lui-même fait un rapport à son N+1 à lui, et puis tout ça se discute dans un comité de direction, où forcément le designer n'est pas toujours présent. Hein, donc on va dire, ben voilà ce qu'il a proposé, qu'est-ce que vous en pensez, voilà ce que j'en pense, etc. Des remarques, ça repart dans l'autre sens. Mais on n'a plus la prise directe avec le PDG. Voilà, c'est...
Apple a quand même construit son retour sur le design. Alors, est-ce que c'est pas inquiétant de voir le design aujourd'hui relégué, même pas au deuxième plan, mais au troisième ou au quatrième?
Moi, ça me fait un peu peur, mais de notre côté, quand vous pesez près de 3 trillions de dollars, bon...
C'est ce qui est très bien montré dans le bouquin de Trip Mikkel, c'est que on est passé de l'Apple de Steve Jobs à l'Apple de Tim Cook. Et l'Apple de Tim Cook, c'est notamment les services. Hein, c'est moins le design. Et c'en est probablement un des éléments et un des exemples illustratifs de ça. C'est que le modèle économique d'Apple a quand même beaucoup changé. Le design a été là pour plusieurs raisons, a priori. L'envie de Steve Jobs et l'approche design de Steve Jobs et le besoin essentiel d'Apple d'avoir ce genre d'approche pour sauver la boîte. Parce que l'iMac à l'époque quand c'est sorti, c'était très beau, etc. Mais en termes de machines, c'était pas la plus rapide des machines. C'était joli à regarder, mais c'était pas un ordinateur fulgurant, quoi. Voilà. Donc l'époque est très différente. Hein.
Eddie?
Il y a aussi autre chose, c'est que peut-être à l'époque de Steve, il masquait un tout petit peu certains problèmes peut-être de puissance ou de différenciation par rapport au monde de PC, puisqu'on utilisait des processeurs Intel comme tout le monde, par un design qui faisait que les machines étaient très différentes. Depuis, et c'est récent, le passage en Apple Silicon, donc M1 et M2 maintenant, je pense que le nouvel axe Apple, c'est nous avons les machines les plus puissantes et de très loin, il n'y a rien qui s'approche. Bon, elles sont peut-être pas aussi jolies qu'avant, mais vous achetez une machine parce qu'elle est jolie ou parce qu'elle est rapide et puissante? C'est un nouveau paradigme.
Bon, est-ce qu'on n'a pas aussi le risque que Johnny Ive, qui était tenu par un accord d'exclusivité avec Apple hein, pour tous les périmètres dans lesquels Apple évolue, risque qu'il aille travailler avec Google, avec Samsung, avec Xiaomi, avec Oppo
Peut-être, mais en même temps, est-ce que c'est un risque vu d'abord ce qui était produit jusque-là avec Johnny Ive, et puis l'approche design qui a été commencée dans ce domaine-là par Apple il y a des années et copiée depuis très longtemps. Quand on voit Xiaomi, tu parlais de cette marque chinoise, ils copient tout du matériel au logiciel, et puis pareil, même encore, on voit. Un téléphone qui est en train de sortir là et qui joue beaucoup sur le design, Nothing. Je me rappelle pas parce que c'est rien du tout. Ils sortent un téléphone qui est pas encore vraiment disponible, mais ça joue vraiment beaucoup sur le design, etc. Donc du coup, ce n'est plus comme ça qu'Apple se différencie. C'est aussi probablement un des problèmes, c'est que c'était très très marqué Apple. C'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Tous les fabricants de téléphones et autres appareils jouent beaucoup sur le design, même Dell justement qui font des machines. Les XPS en portable, ils sont magnifiques. Hein. Donc, il faut trouver autre chose pour se différencier. Et ce que dit Ellie sur la puissance des processeurs M est très juste. C'est voilà, je pense que Apple avance hein, justement. Dans ce domaine-là.
Absolument. Bon, ce serait quand même dommage que ça se termine par des procès, par ce genre de choses, non?
Oui, je pense.
Ah, ce serait très triste, oui.
Ils vont pas en arriver là, mais.
Non.
Mais bon.
Un petit goût de revanche peut-être pour Johnny Ive, qui passera peut-être à l'ennemi d'ailleurs sans trop d'amertume, en réaction aussi hein, peut-être.
Bah si ça se trouve, il va effectivement se dire bon, de toute façon ils apprécient pas mon travail, ils apprécient pas mon talent, tant pis pour eux, ça ne m'empêchera pas de travailler pour les autres. Alors que je pense que sous Steve il l'aurait jamais fait parce que c'était une amitié très particulière, mais même au début avec Tim Cook, peut-être qu'il aurait hésité, entre guillemets, à trahir Apple. Maintenant, au bout de quelques années, s'il sent que finalement, il ne s'intéresse pas à ce qu'il fait et qu'il ne tienne pas compte de son avis, ben, je dis, ben, je vais le donner à d'autres. Hein. Si Apple n'en veut pas, on ne va pas le gâcher. Hein. Mais ça serait un peu dommage, mais ça peut arriver.
Bon, on va suivre, évidemment, cette séparation entre Tim Cook, Apple d'un côté et Johnny Ive de l'autre. On se retrouve avec le reste de l'actu de la semaine. C'est pas messe. Alors, on parlait tout à l'heure avec toi, Ellie, de ce MacBook Air M2 qui arrive dans quelques heures ce vendredi chez les APR, évidemment, dans les Apple Store et un peu partout à travers le monde. On parlait aussi de ces configurations à la demande hein, qu'il faut donc commander si vous voulez notamment passer à 16 gigas. Les dates de livraison n'ont cessé de glisser hein, depuis la semaine dernière, depuis l'ouverture des précommandes le 8 juillet. Si vous voulez un MacBook Air en 16 gigas dans ce coloris que tu nous as présenté le minuit, ce sera le 2 août au plus tôt la livraison. Donc effectivement, tu vois, Ellie, il y a 3 semaines, hein, 3 semaines de délai, 9 août au plus tard. Si vous choisissez l'une des trois autres couleurs et si vous vous contentez des 8 gigas, mais dans ce cas-là, achetez-le chez MCS, vous l'aurez dès
ou
le
chez
19
nos confrères.
Juillet, ou chez tes confrères, bien sûr, vous l'aurez dès le 19 juillet, donc 2 semaines plus tôt, le 26 au plus tard, si vous choisissez le modèle 16 gigas, ou si vous passez à 512 gigas de stockage. Et puis effectivement, les premiers bench, on en parlait aussi avec toi tout à l'heure, ils ont commencé à sortir, et ils donnent des résultats très proches hein, de ce qu'on a vu sur le MacBook Pro M2, 13 pouces. En monocœur, le MacBook Pro est 1% plus rapide. Et en multicœur, on est autour de 3% plus rapide pour le MacBook Pro, sachant qu'il dispose d'un ventilateur, ce qui n'est pas le cas du MacBook Air. C'est un des points qu'on va surveiller aussi hein, dans certaines...
Absolument.
dans certains cas de figure, savoir comment le MacBook Air M2 réagit s'il est sollicité comme un modèle pro, on va dire. Hein.
Oui, exactement. Ouais.
Je sens bon, une envie de faire du ProRes là. Je sais pas pourquoi. C'est...
Non, mais t'imagines un test quand il fait 37 degrés déjà dans l'air. C'est pas le meilleur moment pour faire ce genre de test.
Je crois que c'est pour ça qu'Apple ne nous donne pas les mots de passe d'accès aux machines de démo. Parce que si on le laisse en pleine chaleur et qu'on lui fout un bon ProRes derrière les fagots, il peut peut-être fondre sur la table.
Mais... C'est ça.
Non, je suis mauvaise langue.
Rappelons tout de même que l'un des avantages de MacBook Air M2 et M1, c'est de ne pas avoir de ventilateur. Moi, je trouve que c'est un avantage. On perd peut-être... Alors, je trouve qu'on est dans les différences de puissance. On est, je trouve, quelque part dans les marges d'erreur. Hein, 1%, 3%, c'est pas significatif. Le ventilateur du MacBook Pro 13 pouces est plutôt silencieux, mais peut devenir un peu... bruyant s'il tourne à 7200 tours minute quand il est à son maximum. Le MacBook Air, lui, va être vraiment totalement silencieux toujours, puisque il n'a pas de ventilateur, il baissera juste un peu de sa vitesse s'il a besoin. Moi, je trouve que c'est un avantage mais monumental. Avant l'arrivée du MacBook Air M1, j'ai géré pour des clients des MacBook Air Intel qui soufflait simplement parce qu'on les regardait, et donc j'ai passé mon temps à installer un petit utilitaire qui s'appelle Turbo Boost pour réguler et pour, dès que ça dépassait un peu les 3000 tours, de faire baisser à la main la fréquence du processeur pour faire baisser ensuite le ventilateur ou l'inverse, parce que les gens pouvaient pas travailler, quoi. Donc quel avantage, c'est formidable le fait que ça fasse pas de bruit, absolument formidable. Alors ça, je trouve que ça vaut des sous.
Absolument, je suis complètement d'accord avec toi. Et puis alors, si vous avez acheté un MacBook Pro 14 et 16 pouces comme moi, et que donc vous avez reçu votre MacBook Pro, quelle que soit sa couleur, avec un câble MagSafe blanc, sachez que vous pouvez donc désormais vous acheter un câble MagSafe correspondant à la couleur de votre MacBook Pro. Ce sont deux des couleurs des câbles du MacBook Air aussi, hein, le M2. Ces câbles, donc, qui mesurent 2 mètres aussi, sont vendus 55€. Et donc, comme on l'a dit, vous aurez quand même un connecteur USB blanc, quelle que soit la couleur du câble.
Tu as bien sûr voulu dire qu'il coûtait 55 watts et pas 55€.
C'est ça. C'est ça. Bon, petit clin d'œil
à l'épisode précédent.
Exactement. On l'attendait. Tu l'attendais, Ellie, depuis des mois. Le nouveau plan, la nouvelle appli est arrivée vendredi dernier. La France fait partie des 3 nouveaux pays dans cette nouvelle représentation en 3D avec Monaco et la Nouvelle-Zélande. Je me tourne tout de suite vers toi, Ellie, pour savoir ce que tu en penses, parce que tu trépignais depuis longtemps.
Absolument, et pour te résumer ça en une phrase, c'est mon coup de cœur de la semaine, donc tu vois. Donc j'anticipe, mais comme ça je ferai un coup de cœur plus résumé après. J'adore, j'ai utilisé tout de suite. Alors attention, dès que tu sors de Nice par exemple, on passe à un plan qui ressemble un tout petit peu à ce qu'il y avait avant, hein. C'est-à-dire qu'ils ont détaillé l'intérieur des grandes villes. Dès qu'on part dans les collines ou qu'on sort de l'agglomération, on repasse à une résolution dont on avait un peu l'habitude. Mais l'intérieur est tellement bien fait, tellement fluide. J'ai même évidemment immédiatement installé ça dans la voiture pour voir s'il y avait CarPlay. C'était la même chose, et eh bien oui, c'est-à-dire que par défaut CarPlay il met le plan en 2D. Je me suis dit, oh non, ils l'ont pas implémenté. Mais non, pas du tout, il faut juste glisser 2 petits doigts sur l'écran et automatiquement, parce qu'il n'y a pas de bouton 3D dans CarPlay dans la voiture, ce qui est dommage, mais bon, c'est pas grave. Dès qu'on passe en 3D, clac, on retrouve les immeubles, le relief, etc. C'est magique, c'est extrêmement fluide, beaucoup plus fluide qu'avant. Il y a certains monuments qui sont détaillés, qui sont magnifiques. Alors, ce n'est pas aussi beau pour l'instant que les plans de San Francisco, parce qu'au niveau des rues de San Francisco, il y a ces passages cloutés qui sont matérialisés en jaune, qui sont magnifiques. Là, on n'est pas au niveau des passages cloutés. Le détail des routes est un peu moins bon au niveau, par exemple, d'un couloir bus ou d'un couloir vélo. Ils ne sont pas arrivés à ce niveau-là de détail, mais je pense que c'est un peu réservé pour l'instant vraiment à San Francisco, qui est quand même proche de chez Apple, hein, donc où ils peuvent vraiment tester ça à fond. Peut-être qu'on l'aura dans iOS 16, on ne sait jamais, ça peut être encore un peu amélioré. Mais c'est génial. Après, dès qu'on passe avec les petites jumelles en vue 360, c'est génial parce que c'est beaucoup plus fluide. C'est rigolo. Moi, je suis un grand fan de Google Maps, vous le savez. Ben, c'est plus fluide que Google Maps. C'est presque plus naturel, plus intuitif. En tout cas, à Nice, je n'ai pas eu l'impression que la navigation en réalité augmentée en guidage fonctionne. Je crois que c'est pour l'instant réservé à Paris. À Lyon probablement aussi, mais je n'ai pas vu ça à Nice, mais on peut le simuler si on est dans une rue et qu'on passe en vue 360, on peut quand même circuler, c'est assez bien fait. À ce sujet, ils n'ont pas encore incorporé les dernières prises de vue, parce que vous savez qu'on avait des Apple Car à Nice, à Paris et dans certaines villes de France il y a quelques semaines, hein, il n'y a pas longtemps du tout. Oui. Et quand j'ai regardé la rue Dante où nous sommes, qui a été en travaux depuis Noël, et donc c'était un tout petit peu la Bérésina, mais la prochaine fois, c'est maintenant magnifique, c'est devenu un jardin. Il y a des arbres partout, il y a deux fois plus de place pour les vélos que pour les voitures, mais enfin, c'est comme ça. C'est vraiment très beau. Et ben quand j'ai mis la 3D, ben, il y avait le plan d'avant les travaux. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ? 9 mois en arrière, donc, alors que j'ai vu les voitures passer il y a quelques jours. Alors, soit ils ont eu peur parce que c'était la fin des travaux, mais il y avait quand même pas mal de travaux. Ils se sont dit non, on ne peut pas présenter ça, c'est une zone de guerre. Donc, ils ont laissé l'ancienne version. Soit ça va être incorporé. Mais franchement, on l'attendait, on a attendu longtemps, et je suis tellement content maintenant que ça marche comme ça. Je suis vraiment ravi.
Bon, en tout cas, ça marche très bien. Là, c'est la porte d'entrée en bas de chez moi. Juste comment pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé, comment est-ce que tu profites de ce nouveau mode 3D, Eli?
Bah, en fait, c'est très simple. Hein. Quand on est sur un iPhone, de préférence un iPhone récent, hein, il suffit, il y a une petite icône 3D, on appuie dessus, clac, la carte bascule en 3D. Après, on peut zoomer, on voit les bâtiments. Alors, en 3D, c'est pas en mode satellite, hein. C'est-à-dire que les bâtiments sont modélisés, mais il n'y a pas un niveau de détail comme on peut avoir lorsqu'on est en mode satellite où les maisons en 3D sont reconstituées par Apple. Là, c'est vraiment des bâtiments. C'est-à-dire que tu vois des formes qui reprennent la forme du vrai bâtiment, mais on voit pas les fenêtres, on voit pas des détails comme ça de 3D, hein. C'est vraiment une façon de représenter la rue avec des bâtiments qui sont réalistes, mais qui ne vous distraient pas, surtout lorsque vous conduisez, puisque, en fait, c'est des formes. Voilà. Et sinon, bah, lorsqu'on est dans CarPlay, il faut le faire manuellement avec deux doigts, puisqu'en fait, la façon de passer de 2D en 3D, c'est soit avec le petit bouton 3D, soit avec deux doigts, vous glissez vers le haut et ça bascule de 2D en 3D automatiquement. Ça, c'est un raccourci avec la main.
Tu as essayé, Fabrice ?
Oui, alors j'ai essayé alors quelques petites choses. Ce sujet, je trouve ça magnifique aussi. C'est très étonnant. Il faut bien faire, hein, effectivement, la différence entre la modélisation 3D. Et puis je suis en train de regarder du coup la rue Dante à Nice et j'ai l'impression de voir des arbres. Moi, alors ils ont peut-être fait la mise à jour depuis. Intéressant.
Je vais aller regarder donc, immédiatement.
La modélisation 3D et puis donc cette vue 360 où on est dans des photos avec la reconstitution de l'environnement dans lequel on est. Donc ça, cette vue 360 en photo, on y accède en tapant ou en cliquant sur les boussoles. Les jumelles, pardon. J'avais posté une petite vidéo de démonstration sur le compte Twitter d'iWeek, donc j'invite nos auditeurs à y aller pour se rendre compte s'ils n'ont pas encore vu à quoi ça ressemble. Je m'étais même ingénié du coup à faire une vue spécifique d'une rue à Toulouse qui s'appelle la rue de la Pomme, tant qu'à faire, pour montrer ça, c'est important.
Bien vu.
Voilà, non, c'est très très beau. Un de mes commentaires c'était ça aussi, hein. Donc dans cette vue photographique en 3D où on se balade dans les rues, comme Google Street View le fait depuis des années, hein, mais oui. C'est beaucoup plus, comme tu disais, beaucoup plus fin, beaucoup plus souple, comme animation dans Apple Plan, là, et on a vraiment envie de mettre un casque de réalité virtuelle ou augmentée pour profiter de ça. On voit, enfin, tout les, ça a encore une brique de plus qui se met en place pour profiter de tout ça.
Alors, je profite vraiment... en direct, puisque j'ai fait l'essai, ouais. pour m'inscrire en faux, car oui, il y a des arbres, mais sur Pau. Donc ça, c'est ce qu'il y avait, effectivement, il y a depuis un an et demi. Maintenant,
ah, d'accord.
Voilà. Mais la vue que j'ai prise ce matin, parce que j'en ai quand même pris une pour vous la montrer, voilà le M16 d'aujourd'hui. Alors, il faut le voir en entier, pardon. Avec la double zone piétonne et des arbres au milieu et devant le magasin. Donc, il faut le voir en un peu plus grand. Donc, je vais essayer de zoomer un peu pour que vous voyez. Donc, il y a des arbres maintenant. Et sur le côté, pardon, de l'autre côté, là, il y a la double voie cyclable avec des arbres. Ils sont en train de planter des fleurs tout autour. Donc, c'est vraiment très joli. Mais bon, ça, ce n'est pas encore dans plan. Parce que l'image précédente était dans plan.
Ah d'accord, on voit l'heure.
Parce que, ce qui est très fort, moi je trouve, si tu permets Benjamin, il y a deux trois trucs quand même. Donc pour dire que Plan, ça marche aussi comme ça sur le Mac, et donc ça permet de profiter d'un plus grand écran, c'est très chouette. Et on peut avoir très facilement la vue 360 avec les photos, avec la vue modélisée en 3D à côté, et on a la vue avec les jumelles qui s'orientent en fonction de ce qu'on choisit sur la vue photo. C'est oui. magnifique, quoi. C'est un boulot vraiment monstrueux. Et ça, pour rappeler aussi quand même que faire ce genre de carte, c'est donc un boulot terrifiant, ça coûte un pognon de dingue, comme dirait quelqu'un, auquel on a accès gratuitement. Moi, j'ai souvent envie de répéter ça, parce que notamment beaucoup de gens qui disent oh là là, tous ces services qui nous suivent, c'est de la pub, etc. C'est pas le cas d'Apple, hein, mais on dépense des milliards, que ce soit Google ou Apple, dépense des milliards de dollars par an pour faire des choses comme ça qui sont à couper le souffle. C'est quand même extraordinaire, quoi. Moi, alors là, pour le coup, c'est ça m'écarquille les yeux tellement c'est incroyable. Et c'est un boulot pour mettre à jour, justement. Je rebondis sur ce que disait Ellie. On voit ou pas les dernières mises à jour avec les travaux ou pas les travaux. Parce que c'est un boulot vraiment énorme de faire, et du coup ça aboutit des fois à des trucs marrants. Petit exemple que j'ai vu dans une rue où on regarde un immeuble un peu comme ce que tu viens de montrer, Ellie. Mm-hmm. Sur un coin, on est sur en face à un des coins, et l'immeuble a des échafaudages. On se met d'un côté, on avance un petit peu, l'échafaudage disparaît, ouais. et on arrive sur l'autre façade de l'autre côté, et les échafaudages reviennent. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de mettre bout à bout des images qui sont pas de la même date. Sur un même immeuble pour regarder le même coin de rue. C'est drôle, quoi, de voir ce genre de truc-là.
Bon, le côté
donc
positif,
on assiste à de la modélisation de la Terre entière en 3D, en temps réel. Moi, je trouve que c'est absolument fascinant. Je m'arrête, je pourrais en parler pendant des heures, tellement je trouve ça fascinant.
C'est vrai. Mais le côté positif de cette méthode, qui est d'ailleurs utilisée par les autres fabricants de cartes, c'est que si Apple décide d'incorporer justement les vues qu'ils ont prises il y a quelques semaines, le temps de les traiter, d'effacer les plaques d'immatriculation, les visages, etc., parce que ça, c'est un traitement qu'il faut faire, même s'ils utilisent de l'intelligence artificielle, je suppose, pour améliorer les choses, demain matin ou dans 3 mois, tu ouvres Plan et tu vois que la rue a changé, parce que tu n'as rien à charger, c'est dynamique, donc tu n'as pas besoin d'une nouvelle version.
Voilà, donc c'est le nouveau Plan, même pas besoin de mise à jour, hein, sur votre iPhone, iPad ou Mac, c'est arrivé tout seul, profitez-en, découvrez-le, et effectivement, c'est sans doute une brique qui prépare l'arrivée du casque de réalité augmentée. À ce propos, on a appris grâce à toi, Ellie, qu'Apple recrutait des spécialistes de la réalité augmentée, à Paris notamment. Via des petites annonces sur le site d'Apple.
Et oui, mais en fait, on ne consulte pas assez cette partie-là du site Apple. On va directement au produit, mais il y a une partie qui s'appelle Jobs. Ce n'est pas en hommage à Steve, hein. C'est Jobs parce que recrutement. Et donc, figurez-vous qu'Apple cherche des spécialistes en réalité augmentée et virtuelle. Et donc, avec une expérience et donc désireux de rejoindre une équipe dynamique, avec des compétences, travailler en équipe, aimer les challenges, être prêt à adopter les dernières technologies possibles. C'est des boulots en plus à pourvoir à Paris. Hein, donc... Franchement, s'il y a parmi nos auditeurs des spécialistes, enfin des développeurs qui sont passionnés par la réalité augmentée ou virtuelle et qui hésitent à plonger dans le métaverse concurrent, bah, sachez qu'Apple va nous sortir quelque chose forcément dans les mois qui viennent, qui sera peut-être pas un métaverse, mais qui sera quand même assez intéressant, je pense. En plus, c'est super bien payé. Honnêtement, les développeurs, les ingénieurs Apple, c'est quand même super bien payé.
Merci Elie pour ce coup d'œil sur les petites annonces de chez Apple côté Apple France. On marque une courte pause et on se retrouve avec les rumeurs de la semaine. Et les rumeurs cette semaine portent beaucoup sur les noms des futurs produits. On va commencer par cette future Apple Watch version... Sport, Baroudeur, Extreme Edition, Explorer, appelez-la comme vous voulez. Mark Gurman, lui, il a tranché et selon lui, ce nouveau modèle d'Apple Watch s'appellerait l'Apple Watch Pro. Il mise sur un diamètre de 47 mm et sur un prix qui serait quelque part entre 900 et 1 000 $. Pour le coup, on bénéficierait d'une meilleure autonomie et d'un boîtier probablement en titane. Est-ce que ça vous parle ?
Bah, moi, je dirais pas assez cher, mon fils.
Pas assez cher.
Comment ça, titane à 900 euros ? Mais quoi ? Mais c'est donné, quoi.
Fabrice, bah, réagis, fais quelque chose, s'il te plaît.
Quitte ce corps.
Est-ce que c'est encore l'augmentation des prix finalement, qu'il y ait un modèle haut de gamme très cher, bon, admettons, si c'est marqué Pro...
il serait 18 fois moins cher que l'Apple Watch en or. Hein.
C'est exact. moi, ce que je souhaite, c'est que ça n'entraîne pas une montée des prix des autres modèles. J'ai malheureusement peu d'espoir sur le sujet. Je suis un peu perplexe en fait parce que on parle d'une montre pour les sportifs parce que il y a un segment de marché que visiblement Apple a du mal à attaquer complètement, qui est encore pris par les montres Garmin par exemple pour les sportifs, c'est-à-dire qui sont capables d'abord de survivre à des chocs, etc., en sport extrême, mais aussi de durer longtemps pour des gens qui font des marathons, des triathlons, bref, des sportifs haut niveau, même amateurs, hein, mais qui font plus que courir autour d'un lac le dimanche. Et du coup, pour faire ça, il faudrait faire une montre à 1000 euros, pour avoir une batterie plus grande, et là je suis pas sûr que ça corresponde tellement au marché en question. Justement, c'est pas parce qu'on est sportif de haut niveau que on court avec des chaussures en or, justement, et donc je suis un peu perplexe, j'ai du mal à comprendre ça. Donc la démarche d'Apple de faire quelque chose de plus résistant en titane, d'accord, ça résiste mieux, avec un verre ceci cela pour avoir, et puis plus grand pour avoir une plus grande batterie. Les sportifs, c'est pas ça qu'ils cherchent. Ils cherchent des Garmin ou des G-Shock de chez Casio. Oui. Une montre, du coup, là, ça devient une montre haut de gamme et pas une montre sportive. Donc, j'ai du mal à comprendre, en fait.
Ouais. Elie, est-ce que tu trouves une cohérence dans ce futur produit potentiel ?
Le problème, c'est le marketing, en fait. Qu'il y ait une montre plus grande, qui soit un peu plus résistante, ça me choque pas. Je pense qu'il y a un marché pour ça. De là, essayer de la cibler en disant oui, mais c'est pas parce qu'elle est plus grande, etc. C'est parce que c'est destiné aux baroudeurs ou aux sportifs. Du coup, si moi je suis pas sportif ou pas baroudeur, je me dis ah ben non, cette montre est pas pour moi, alors que j'aimerais peut-être avoir une montre plus grande. Il faut pas trop mettre des choses dans des cases. C'est comme au début de l'Apple Watch où ils voulaient absolument en faire un produit de luxe. Rappelle-toi, réservé à Colette au début, certains modèles on ne pouvait pas les avoir, les éditions on ne pouvait pas les avoir, les Hermès on ne pouvait pas les avoir, etc., etc. Et finalement, nous on disait à Apple, mais attendez les mecs, vous vous trompez complètement de positionnement, ce n'est pas un modèle de luxe, c'est une montre connectée, ils ne parlaient pas du tout de connexion, ils parlaient de luxe. C'est la montre qu'il faut avoir parce que c'est une montre de luxe. Mais ce n'était pas ça du tout. Les mecs qui veulent une montre de luxe, ils s'achètent une Rolex ou une Patek Philippe ou que sais-je. Je ne suis pas un spécialiste des montres. Hein. Moi, c'est juste que j'ai entendu un président qui a dit que si on n'avait pas de Rolex à 50 ans, c'est qu'on avait raté sa vie. J'en ai jamais eu personnellement. Donc, j'ai dû rater ma vie hein, quelque part. Désolé.
Mais c'était surtout un accessoire de mode plus qu'un objet de luxe.
Oui. Hein? Oui, mais au départ, pendant les deux premières générations, ils ne parlaient pas assez de connexion. Maintenant, avant tout, c'est une montre connectée qui fait plein de choses pour votre santé, qui fait plein de choses pour les sportifs aussi, mais parce que c'est connecté. Peut-être qu'il y a encore des petites choses cachées qu'elle va faire de mieux en mieux, sans aller jusqu'à la parodie. On avait à un moment donné envisagé une Apple Watch qui aurait une caméra intégrée pour faire comme du Dick Tracy, tu sais, et parler avec sa montre. Bon, je ne sais pas si un jour on arrivera à ça, mais je ne vois pas vraiment l'intérêt de faire ça dans une montre. On a un téléphone qui fait ça très bien. Hein, mais...
Bad idea, comme on dit, bad idea.
Ouais.
Bah oui. Non, enfin, ça pose plein de questions. D'abord, à quoi peut servir un écran plus grand ? Il y a un côté aussi, bon, pour l'instant, on ne sait pas. Hein. Est-ce que l'écran est plus grand, mais avec le même nombre de pixels ? Ou est-ce qu'il y a plus de pixels et du coup, ça permet de faire autre chose ? Ça, on ne sait pas. C'est intéressant comme question, je trouve.
Oui.
C'est pas uniquement donc si c'est pas un accessoire de mode et que c'est un accessoire de sportif, enfin bon, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, j'ai du mal à j'ai du mal avec ça. C'est marrant ce que Gurman il s'avance là-dedans pour une fois sans trop savoir en fait. Il a quelques caractéristiques techniques, mais finalement pas plus que ça. Et je reviens aussi sur un truc.
Attends, on va l'appeler, on va lui dire que t'es pas d'accord avec lui, tu vas voir.
J'ai l'impression qu'il a eu des infos, moi, pour dire tout ça.
Oui, bien sûr. Mais en tout cas, et comme je vais revenir sur le truc, je radote. Hein, on n'a pas encore l'histoire que va raconter Apple avec ça.
Oui. Ça,
l'histoire sportive, comme disait Ellie, c'est pas suffisant. Et puis moi, je suis toujours surpris, et j'en parlais, je crois, la semaine dernière, c'était que c'est pas parce que l'histoire du prix lié à la taille me surprend de plus en plus. Hein. C'est-à-dire que faire une montre plus grande, c'est plus facile que faire une montre plus petite.
Ah non, mais
il n'y a pas de raison objective qu'une montre plus grande soit plus chère.
Le prix serait plutôt lié à l'autonomie, je pense, au boîtier en titane et pas en aluminium.
Alors, surtout, voilà, les matériaux, oui. Ouais. Mais mettre une batterie avec quelques milliampères-heure supplémentaires, ça coûte rien en plus, hein, c'est pas ça qui coûte. Et l'intégration est plus facile. Donc c'est pas...
On te la fait pas, toi.
Il va falloir qu'on change ce modèle-là, mais y compris nous tous, qu'on arrête de réfléchir comme ça, à mon avis.
Alors à propos de l'Apple Watch, on parle de l'arrivée de Touch ID, puisqu'Apple a obtenu un brevet qui décrit l'intégration de Touch ID sur le bouton latéral. Un petit capteur biométrique comme sur l'iPad Air, je peux dire de bêtises. Ouais. L'iPad Air 4.
Et l'iPad Mini aussi.
L'iPad Mini 6 aussi.
Mm-hmm.
Voilà. Oui. Donc un bouton bien Touch sûr. ID qui éviterait d'avoir à taper son code secret sur l'Apple Watch.
Mais quelle bonne idée. J'adore. Je veux absolument ça tout de suite. Hein.
Bah oui. Bah oui, François disait la même chose dans la quotidienne. Ça fait déjà deux voix. Bon, ça n'est qu'un brevet pour l'instant, mais ça semble complètement possible.
Hein? Mais carrément.
Oui, oh, bah oui, c'est une bonne idée. Alors, on tape pas si souvent que ça. On a moins besoin de s'authentifier sur une montre parce que tant qu'on l'a pas enlevée du poignet, elle reste activée. Hein. On a besoin si on l'enlève et qu'on la remet, ou évidemment qu'on la redémarre. Dans le cas présent, si on la redémarre totalement, il faudra taper le code, comme on fait sur un iPhone, un iPad aujourd'hui, même avec la reconnaissance faciale. Mais ce serait aussi plus sécurisé pour les paiements, tout bêtement. Aujourd'hui, en gros, on peut déclencher un paiement. On considère que la montre n'a pas besoin d'être... on n'a pas besoin de remettre un code, quoi que ce soit. On l'a au poignet, donc on valide un paiement. Ouais. Peut-être que là, ça sécuriserait encore un peu plus. Ça me paraît, ouais, effectivement. Ce serait chouette.
Ouais, absolument.
Donc, trois.
Trois voix. Trois voix pour le Touch ID sur l'Apple Watch. Je parlais des rumeurs autour des noms, alors on va passer à l'iPhone maintenant, à la gamme iPhone 14. Ça fait plusieurs mois qu'on parle du remplaçant de l'iPhone mini, cet iPhone à grand écran qui ne serait pas le Pro Max, mais le Max tout court, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a appelé jusqu'à maintenant, et bien toujours selon Mark Gurman, cet iPhone s'appellerait en fait l'iPhone 14 Plus.
Plus ?
Ouais.
Pourquoi pas ?
Et ce serait corroboré par des noms qui apparaissent sur des prototypes d'étui de housse pour la future gamme iPhone, des housses dont les photos commencent un peu à circuler. L'iPhone 14 Plus, ça rappelle évidemment d'autres modèles d'iPhone. Ça vous semblerait judicieux ?
Il y a déjà eu du 6 Plus, du 7 Plus, hein, donc bah oui. Pourquoi pas ?
Il faut comprendre probablement que plus, c'est bien, mais c'est un petit peu moins bien que max. Maximum, c'est forcément au-dessus.
Ah bah oui,
ah, c'est ça.
Voilà, c'est ça que ça veut dire. En plus, le mot max dans la gamme Apple, c'est compliqué parce que ça se prononce pareil que des Mac au pluriel. En anglais, le mot max est une catastrophe, en fait, hein, y compris avec le M1 Max... donc tu parles en anglais, tu décris two Macs with M1 Max processors. C'est on se perd en anglais, c'est affreux, quoi. Donc le mot Max,
c'est le même mot en anglais. Phonétiquement, c'est le même mot.
Phonétiquement, ça se prononce pareil. Ouais. Donc c'est très bizarre. Ouais. Mais du coup, ça fait un retour en arrière. Enfin. Ouais.
Mais bon. C'est en français, tu sais ce qu'on dit. Il est libre, Max.
Tu vas nous rappeler ça.
Oh oui, celle-là, il fallait la faire, oh oui.
Ou sinon, tu as Monsieur Plus, mais...
tu as Monsieur Plus, voilà. Non, enfin bon, voilà. En tout cas, quelque part quand même, je trouve que c'est difficile. Hein, la gamme Apple, qui a tout produit confondu, est assez opaque quand même. C'est difficile de s'y retrouver. Il y a plein d'appellations avec des mots qui se ressemblent, etc. Ça, je suis un peu surpris. On parlait de design tout à l'heure. Il y a aussi en termes de marketing et d'appellations. Ils sont en gros, ils arrivent au bout des superlatifs. Ils ne savent plus quoi en faire. Ils ont besoin de nouveaux mots.
Il faut rappeler Phil Schiller, je pense.
Ben exactement. Exactement.
Alors le casque de réalité mixte n'est pas encore sorti, hein, vous le savez. On parle toujours de janvier pour sa présentation. Ming-Chi Kuo, lui, voit déjà l'étape d'après, à savoir la deuxième génération du casque, qui serait moins cher, selon lui, et qui sortirait en 2025, c'est-à-dire plus ou moins en même temps que les fameuses lunettes de réalité augmentée.
Bon, au moins, qu'est-ce qu'on peut dire sur le sujet ?
Ça nous donne quand même une sorte de d'échéance, c'est-à-dire qu'on commence un petit peu à voir. Donc le casque, ce sera 2023, hein, à la fois présentation et probablement lancement.
Oui, janvier toujours avec
à la rentrée,
disponibilité avant la
en
W
septembre.
Ou à la WWDC peut-être.
Ah, tu crois ? Moi, je verrais plutôt septembre.
Mais ben, bon. Tu sais, pour que les développeurs puissent vraiment s'y attaquer et faire des choses sérieuses, peut-être en quantité limitée. Tant s'il est présenté en janvier, sortir en juin, c'est raisonnable pour Apple. Je ne dis pas en quantité industrielle, mais au moins pour des développeurs qui puissent bosser dessus.
Mmh. Ouais.
Ça pourrait être ça, d'ailleurs, en plus. Une interprétation, ce serait le premier casque pour les développeurs. Qui coûte cher, et pour donner le temps à ces développeurs de préparer leurs applis. Et puis, plus tard, et peut-être en 2025, si on en croit Kominchi, le casque en public, en fait. Est-ce que c'est la deuxième version du casque, en fait, c'est plutôt le casque en public.
Je te rappelle que Tim Cook a dit « stay tuned », donc là, s'il faut attendre 3 ans, c'est...
Wow. Oui, mais enfin, ça fait déjà 3 ans qu'il en parle.
Oui, c'est vrai, mais là, il a dit stay tuned.
On reste à l'écoute et puis on voit rien venir.
Il a dit stay tuned, hein, Tim. Hein, donc,
ouais. C'est vrai.
Bon, on sait ça, on dit ça. En fait, on sait pas grand chose.
Non.
Si ce n'est que ça va sans doute se passer entre 2023 et 2025. Et je rappellerai le bon mot de François Le Truédic qui disait que l'Apple Car serait sans doute présenté à travers les lunettes.
C'est... Trop fort, ce François.
Ce qui donne une bonne idée du calendrier, je trouve. Allez, on a fini avec les rumeurs de la semaine. Place maintenant aux mises à jour. Les mises à jour de la semaine, ce sont les premières bêta publiques des prochains systèmes d'exploitation. On parle des OS qui ont été présentés à la WWDC 2022, dont les cycles de bêta sont en cours. Si vous voulez les essayer, vous pouvez y avoir accès sans avoir à être développeur Apple. On parle donc d'iOS 16, d'iPadOS 16, de tvOS 16, de macOS Ventura et donc macOS 13 et puis aussi WatchOS
9.
9, c'est bien, vous 9. Suivez les amis.
Presque, presque.
Alors, je ne vous demande pas si vous avez installé ces bêtas publiques.
Pas du tout.
Non, non, vous n'avez pas
dire
eu
que
le temps.
Tout le monde et, pas du et surtout pas, non.
Voilà.
Et pourquoi alors, surtout n'y allez pas, pas.
Pourquoi surtout pas, Fabrice?
Parce que c'est la première bêta publique, et alors il faut vraiment l'installer si on a un appareil en rab, hein, parce que ouais. les premiers retours de ça, de ceux qui l'ont fait, il y a des choses qui marchent pas. En plus, alors surtout si de plus en plus les systèmes d'Apple sont faits pour fonctionner ensemble dans leur version courante. Donc si on met en place iOS 16, on a plutôt intérêt à installer Ventura aussi sur son Mac pour avoir tout, notamment par exemple la fonction Desk View dont on pourra reparler, mais parce que sinon ça peut aussi casser des trucs, c'est-à-dire que si aussi on a l'habitude d'utiliser comment ça s'appelle déjà la commande universelle pour faire passer la souris de son Mac vers ouais. l'écran de son iPad. Si on a mis son iPad en iPadOS 16 mais pas, et qu'on laisse son Mac en macOS Monterey 12, ça peut planter. Ouais. Voilà. Donc c'est il vaut mieux faire tout à la fois. D'abord c'est long et puis visiblement c'est la première bêta publique, ça va pas tout vous effacer mais ça plante quoi.
Ouais,
il y a tout qui marche pas. Donc n'y allez pas tout de suite. On a encore le temps. On n'est que mi-juillet, ça va aller. Voilà. Mais il y a déjà des choses qui sont quand même apparues, qu'on peut tester si on veut, ouais. Et notamment la photothèque partagée qui est un gros truc aussi.
Ouais. Bon, donc n'y allez pas, sauf si vous avez une deuxième machine, un deuxième iPhone ou un deuxième iPad complètement dispo. Évidemment, là, vous n'avez pas trop de raison de vous priver. Ouais, faites-vous plaisir, comme on dit. Voilà, très bien.
Mais moi, je préfère, tu sais, attendre et avoir la surprise, la découverte de la version finale. Parce qu'après, tout est gâché à force de travailler sur des bêtas. Quand arrive le nouvel iPhone avec son nouveau système ou le nouvel iPad, eh bien, on le connaît déjà. C'est bon, moi j'attends la surprise. Mais voilà. Il faut savoir. C'est en train
de
savoir attendre.
Il y en a qui ont besoin d'avoir un peu avant pour pouvoir écrire des trucs à son sujet, tu vois, par exemple. Donc, avant que ça sorte, on est mi-juillet, j'y vais pas, mais vous m'en reparlerez fin août. Hein.
C'est ça. Parce que, du coup, tu nous raconteras tes péripéties. Bon, pendant ce temps, ceux qui sont passés à iPadOS 15.5 et qui ont un iPad mini 6, pour certains, ont des soucis de charge. Alors Apple aurait envoyé une note à ses centres de réparation en disant que le remplacement de la batterie ne sert à rien. La meilleure parade temporairement serait de redémarrer l'iPad mini 6, mais le problème revient apparemment au bout de 3-4 jours. Et donc si vous êtes encore sous iPadOS 15.4, on peut vous conseiller une chose, c'est d'y rester au moins le temps qu'Apple trouve une solution logicielle pour cette version 15.5 d'iPadOS qu'on vous déconseille donc, en tout cas sur iPad mini 6, qu'on vous déconseille d'installer. L'arrivée du spatial audio sur Netflix, alors c'est plus vraiment de la mise à jour, mais c'est quand même une évolution du service, puisque le déploiement est en train de se faire depuis quelques jours. Je ne sais pas si, Ellie, tu as eu l'occasion de tester, d'essayer.
Pas encore, parce qu'en plus, c'est du spatial audio, mais ce n'est pas du Dolby Atmos. Hein, donc, c'est du spatial audio basé sur une formule par rapport à une spatialisation de la stéréo. Donc, ça reste quand même du spatial audio. Mais ce qu'il y a, c'est que dans l'esprit des gens, quand Apple parle de spatial audio, c'est du Dolby Atmos. Dans le cas de Netflix, ce n'est pas le cas.
Ouais,
donc, du coup, moi, mes systèmes sont basés plutôt sur le fait que ce soit du Dolby Atmos. Peut-être le casque d'Apple, les AirPods Pro, peut-être pas, je vais essayer quand même. Hein. Et c'est vrai que Netflix conseille de taper Spatial Audio et ça va donner des séries. Bon. Donc je vais essayer, mais vous savez que depuis quelques jours, je ne touche pas terre, je n'ai même pas allumé la télé. Mais il faut que je le fasse. Voilà. C'est ça la retraite, hein, c'est qu'on n'a plus le temps de rien faire.
Ben oui, mais on sait. Enfin, on découvre avec toi. Hein, ouais.
Bon, en tout cas, si vous bossez de ma vie, moi.
Si vous voulez en profiter, il y a deux trois conditions. D'abord, il faut régler la qualité du streaming sur haute ou sur auto. Il faut avoir un appareil, donc un iPhone ou un iPad sous iOS 15.1 ou iPadOS 15.1 minimum, ou un Apple TV 4K avec tvOS 15. Et puis, il faut bien sûr des écouteurs compatibles. Et là, vous connaissez la liste. AirPods 3, AirPods Pro, AirPods Max ou Beats Fit Pro. Nos coups de cœur de la semaine. On commence par toi, Fabrice. Dis-nous tout.
Alors, une petite application, cette fois-ci inspirée de Windows. Non, ne me tapez pas.
Ah ouais?
Restez avec nous.
On est ouvert.
Une petite chose, tant mieux, merci les copains. Vous savez tous qu'il y a un raccourci clavier sur Mac, on peut faire commande et touche tab pour passer d'une application à l'autre avec un petit affichage au milieu. Il y a une chose que Windows fait mieux que le Mac dans ce domaine-là, c'est que lorsque on fait Alt-Tab sur Windows, on fait un cycle entre toutes les fenêtres et pas les applications, ce qui est une différence essentielle. C'est-à-dire que quand on a plusieurs fenêtres ouvertes dans une application, on peut directement choisir la fenêtre que l'on veut dans l'application, même si on a 2, 3, 4, 12 d'ouvertes dans la même appli, ce qu'on ne peut pas faire sur Mac facilement. On peut remédier à ça en installant une application qui s'appelle tout simplement Alt-Tab, pour reprendre justement le raccourci clavier de Windows, pour avoir la même chose, qui va donc marcher en parallèle de Command-Tab habituel de macOS. Et on va utiliser la touche Alt ou Option sur les Mac et avec la touche Tab pour faire apparaître une autre vue avec toutes les fenêtres et pas seulement les applications. C'est gratuit, ça se récupère sur le site web suivant, Alt Tab. Alors attention, accrochez-vous, prenez un stylo. Alt Tab macOS netlify.app, et donc il va falloir que je dicte tout ça lettre par lettre. C'est alt-tab-macos.netlify.app.
Voilà.
Et peut-être que il est gentil, Benjamin mettra ça dans les notes de l'épisode pour qu'on puisse.
Vraiment, je suis gentil.
Voilà.
J'ai rien compris.
Voilà. Donc,
là, tu verras les notes.
Alt-Tab sur Mac comme sur Windows et c'est super pratique.
Eh ben merci, voilà. super astuce, Fabrice. Élie, as-tu un coup de cœur?
Bah oui, mais je vous l'ai un peu dit tout à l'heure, mon coup de cœur de la semaine, c'était le nouveau plan. Donc en fait, je vais utiliser l'expression préférée des parlementaires américains en disant « I yield my time to the gentleman from Paris », c'est-à-dire toi.
Merci.
C'est très beau.
Merci Élie. Bah moi, mon coup de cœur, c'est une nouvelle série sur Apple TV+. Sur laquelle je suis tombé il y a quelques heures, qui s'appelle Blackbird. Alors, avec Taron Egerton, c'est l'acteur qu'on a découvert dans Kingsman et qui a ensuite incarné Elton John dans Rocketman. Il est vraiment,
excellent.
Il est vraiment étonnant, excellent. Alors, dans Blackbird, il incarne une star du football américain qui s'appelle Jimmy Keane. Qui s'adonne au trafic de drogue, on comprend pas trop pourquoi, mais voilà, il déconne et puis il va se faire serrer par la DEA, l'agence de lutte américaine. Il va être condamné pour une lourde peine, plus lourde que ce qu'il espérait. Et il va essayer d'obtenir l'annulation de sa peine en tirant des informations d'un autre détenu qui est un potentiel tueur en série. Et cet autre détenu est interprété par Paul Walter Hauser. C'est lui qui jouait l'agent de sécurité dans le cas Richard Jewell de Clint Eastwood, si vous l'avez vu. Il est étonnant parce que il joue très très bien Et on se demande constamment si s'il nous balade et s'il est, si c'est le dernier des salopards ou si, au contraire, c'est juste un pauvre type qui ferait pas de mal à une mouche, quoi. Et c'est vraiment chouette. Alors, j'ai vu que les deux premiers épisodes, parce que comme pour All Mankind, c'est un épisode le vendredi, donc c'est dur. Mais si vous voulez commencer, vous avez deux épisodes qui vous attendent sur Apple TV+. Et puis, je voudrais citer deux autres acteurs aussi au casting. D'abord, il y a Ray Liotta qu'on avait découvert dans Les Affranchis, qui est mort il y a quelques semaines, et donc c'était son dernier rôle. Il joue le rôle du père de Taron Egerton. Et puis on a aussi Greg Kinnear, qui incarne l'inspecteur de police dans sa campagne américaine. Il est vraiment, vraiment top aussi. Voilà, donc Blackbird sur Apple TV+, c'est mon coup de cœur de la semaine. C'est fini pour cet épisode 99. Je vous rappelle patreon.com/iWeek pour profiter de notre bonus hebdomadaire. Les quelques minutes qu'on continue d'enregistrer après le générique de fin sur un sujet complètement improvisé en général quand le clap de fin est tombé. On poursuit l'épisode. Avec cette rallonge spécialement destinée à nos soutiens sur Patreon, donc rejoignez-les et profitez de ce bonus patreon.com/iWeek, et puis vous ferez une bonne action en nous soutenant et en soutenant notre travail bénévole. La quotidienne iWeek, c'est le podcast quotidien complémentaire indissociable de la semaine Apple. Un podcast gratuit sur toutes les grandes plateformes de podcast. Alors, on a besoin évidemment de vos abonnements. C'est gratuit, donc ça vous coûte juste un clic. On a aussi besoin de vos notes 5 étoiles et de vos avis sur Apple Podcast pour dire tout le bien que vous pensez de cette quotidienne iWeek. Merci beaucoup pour votre soutien et pour votre fidélité. Le prochain rendez-vous qu'on vous donne, eh bien, ce sera le numéro 100, le centième numéro d'iWeek. Ce sera la dernière aussi de la saison. Alors, pas de date fixe, en tout cas on n'est pas encore en mesure de vous la donner, mais on vous promet ce centième numéro d'ici la fin du mois de juillet, si tout va bien entre le 25 et le 28. Ce sera à la fois un numéro anniversaire et aussi le numéro de l'été pour vous aider à tenir jusqu'à la rentrée. Si vous voulez être tenu au courant de son arrivée, suivez le compte officiel @iWeekNews sur Twitter. On va vous tenir au courant de sa production et je suis sûr que vous n'aurez pas envie de le rater. Merci beaucoup les copains. Fabrice Neumann, c'était chouette de te retrouver.
Merci au capitaine. Bah oui, c'était bien chouette. Et bien chaud aussi.
Prêt pour la centième?
Non, on n'est pas prêt puisque tu nous as prévu tout un tas de joyeusetés qui vont nous ridiculiser tout ce temps qu'on est. Donc moi, je sais pas toi, Ellie, mais je suis pas prêt.
Ellie, je pense qu'on va faire la grève, moi. Je pense.
Ah ouais. Ah oui, vous pouvez. Ça va être terrible. Bon, en tout cas, on va bien s'amuser pour cette centième. Merci de votre fidélité. Passez une super fin de semaine dans cette canicule. Faites bien attention à vous. Restez à l'ombre. N'oubliez pas de vous hydrater et de mettre de la bonne crème si vous êtes au soleil. Ne prenez pas trop de coups de soleil. Bises à tous. Et puis, on se retrouve à la fin du mois pour ce numéro 100 d'iWeek, la semaine Apple. Et encore merci infiniment de votre fidélité. À très vite, les amis. Et bon début d'été. Bonnes vacances.
Merci. À très bientôt.
Salut à tous.